L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Buis.
5h pile au FM 93. Bienvenue dans l'amorce. Édition du 26 septembre 2019. Ça passe vite. Déjà le mois d'octobre qui se pointe le bout du nez. Ça s'en vient, ça sent la saison de hockey aussi. Là. On vient d'entendre dans les dernières minutes le résumé de l'avant-dernier match préparatoire du Canadien. La semaine prochaine, c'est le début du calendrier officiel de la Ligue nationale de hockey. C'est un retour pour bien des amateurs à leur activité favorite, c'est-à-dire de suivre les matchs de la Ligue nationale. 26 septembre, c'est la journée nationale des grands-parents. Ben alors, bonne journée à tous ceux que ça concerne. Si vous êtes grands-parents ou si vous avez la chance d'avoir encore des grands-parents en vie, prenez quelques instants pour penser à eux. Ou encore une fois, comme je vous le dis, si vous l'êtes, ben c'est toute une belle beau privilège. Je me souviens que mes grands-parents, lorsqu'ils étaient en vie, disaient toujours que c'était d'avoir tous les avantages d'être parent sans les inconvénients. Quand on a ses petits-enfants, pas besoin d'avoir l'autorité qui va avec. Il y a plus de 7 millions de grands-parents au Canada. Et sachez que compte tenu de la hausse de l'espérance de vie, ben logiquement, les gens demeurent grands-parents plus longtemps. C'est 25 ans en moyenne pour les femmes et 19 ans en moyenne pour les hommes que des grands-parents peuvent bâtir une relation avec leurs petits-enfants. On va passer à la météo. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines heures et les prochains jours à Québec? D'abord, aujourd'hui, jeudi, c'est un maximum de 16 degrés. On poursuit dans la tendance nuageuse avec des averses. Averses qui débutent ce matin. On t'a prévu de 15 à 25 mm avec des vents d'environ 20 km/h, maximum de 16. Une journée à la température pas trop froide, mais de la pluie qui est encore prévue. Demain vendredi, enfin, on va revoir un peu de soleil. Ça va faire du bien. Alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 16 degrés encore une fois. Samedi, la température au mercure reste la même, à 16 degrés, et c'est de la pluie, maximum de 16, donc c'est pas un très très beau samedi qui est prévu jusqu'à maintenant. Par contre, dimanche et lundi, c'est ça la bonne nouvelle, on aurait du soleil, plein ciel pour dimanche, maximum de 15, lundi maximum de 13 avec du soleil également. Et pour le moment, 10 degrés à Québec. Dans l'actualité, je vous le dis tout de suite, on a un gros menu politique un peu ce matin parmi les sujets à discuter avec vos collègues de travail. D'abord, on va s'attarder un peu à la campagne électorale fédérale. Je vous l'ai dit, c'est pas une campagne qui lève énormément, là, outre différents scandales sur les médias sociaux. Il n'y a pas de grandes surprises jusqu'à maintenant, notamment dans la région de Québec. On n'a pas vu Justin Trudeau qui est pas encore passé. Jack Meetsing, le chef du NPD, lui était passé un peu avant la campagne électorale, mais pas repassé depuis ce temps-là. Finalement, le chef conservateur Andrew Scheer, lui, est passé hier. Il était de passage à Québec. Faire en quelque sorte son pitch de vente. Qu'est-ce que les conservateurs offrent pour la région de Québec? Faut dire que dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, c'est très, très bleu. À part les deux points rouges de Jean-Yves Duclos, Joël Lightbound dans Québec et Louis Hébert, c'est que conservateur. Alors, Andrew Scheer qui est probablement venu conserver ses acquis et renforcer les promesses du Parti conservateur. Alors, je vous invite d'abord à écouter les priorités d'Andrew Scheer. Vous comprenez, c'est un rassemblement partisan. Là, c'est pour ça qu'on entend des applaudissements.
Nous allons donner aux Québécois et Québécoises un gouvernement intègre dont ils pourront être fiers. Et comme premier ministre, le troisième lien sera ma priorité. Les Québécois auront qu'un seul rapport d'impôt. L'enjeu du pont de Québec sera réglé une fois pour toutes.
Pas le plus naturel en termes de ton. Hein. Bon, son enthousiasme est un peu, pas, je dirais pas fake, là. Il est sûrement réellement content de ses promesses, là, mais c'est un peu forcé là, avec la même intonation à chaque promesse. Mais donc Andrew Scheer qui a donné comme première priorité le troisième lien, ce qui le différencie un peu des candidats libéraux qui tergiversent pas mal sur cette question-là. On est moins certain de ce que les libéraux pensent de l'enjeu du troisième lien à Québec. Sinon, il a parlé, vous l'avez entendu, la déclaration d'impôt unique, qui a été présenté récemment comme François Legault comme un des éléments de sa liste d'épicerie, de liste de priorité auprès du fédéral. Et il a parlé, bien sûr, de l'enjeu du pont de Québec qui était supposé être réglé dans les premiers mois, premières années du mandat libéral. Puis finalement, ben, il s'est absolument rien passé. Donc, les conservateurs mettraient ça également à leur agenda. Il s'est amusé aussi à copier le slogan d'un autre parti politique au fédéral, le Bloc québécois. Vous savez que le Bloc québécois, il est allé d'un Québec, c'est nous, avec la toune qui va avec. Là. Je vous la ferai pas réécouter, mais toune à la Éric Lapointe avec les accents rock et peu de paroles, mais grosso modo, le Québec, c'est nous, etc. Et Andrew Scheer a joué là-dessus et sur la fibre nationaliste des Québécois.
La reconnaissance que les Québécois forment une nation au sein du Canada uni, c'est nous. Un siège pour le Québec à l'UNESCO, c'est nous. Le règlement de déséquilibre fiscal, c'est nous. Le respect de la nation québécoise, c'est nous. Et donner plus d'autonomie au Québec en matière d'immigration, c'est encore nous.
Alors, à vous de voir si vous achetez le pitch de vente de Monsieur Scheer, qui a au moins eu la bonne idée de se présenter à Québec. J'ai hâte de voir à quel moment dans la campagne électorale Justin Trudeau va venir faire un tour dans la région de Québec pour parler aux électeurs. Parce que c'est certain que s'il veut faire des gains ou consolider ses avances, parce qu'il faut dire que présentement, la réélection de ses députés dans les deux comtés qui contrôlent sont pas assurés. Là. Jean-Yves Duclos, présentement, est menacé, c'est-à-dire pas totalement, mais ça avait été très, très serré à l'époque parce que en 2015, le vote avait été divisé. Parti libéral du Canada à 28,8%, NPD à 26,8%, conservateur à 22,2%. Donc, c'est pas joué de ce côté-là. Et dans Louis Hébert, on a tendance à voter pour un député d'un parti différent à chaque élection fédérale. Donc, c'est pas non plus gagné pour Joël Lightbound. C'est ce qui fait le tour un peu de la campagne électorale fédérale, du moins dans les enjeux régionaux pour Québec et les alentours. Au Québec aussi, politique provinciale, il y a eu passablement de nouvelles hier. Je vais me concentrer surtout sur celle d'une promesse, sans dire brisée nécessairement, il y en a qui disent promesse brisée, mais disons modifiée de la part du gouvernement Legault. C'est drôle, il y a quand même une tendance d'un chef de parti politique qui, en campagne électorale, prévoit une réforme du mode de scrutin vers quelque chose de proportionnel. Et là, tout à coup, une victoire majoritaire et change son fusil d'épaule. Ça avait été le cas au fédéral. En 2015, la réforme du mode de scrutin au Canada était une des promesses fortes de Justin Trudeau. Et arrivé au pouvoir, ça s'est jamais concrétisé. Et parmi les promesses de François Legault, il y avait aussi cette arrivée d'un mode de scrutin proportionnel, ou en tout cas mixte, là, aux prochaines élections en 2022. Là, ce qu'on apprend finalement, c'est qu'en 2022, vous aurez non seulement à choisir votre nouveau gouvernement provincial, mais aussi à vous prononcer sur la question, dans une question référendaire, une question qui va vous demander d'être informé ou de vouloir modifier éventuellement le mode de scrutin, la façon dont on choisit nos élus. Et la question référendaire sera la suivante. Êtes-vous en accord avec le remplacement du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour, ça c'est ce qu'on fait présentement, par le mode de scrutin mixte avec compensation régionale prévue par la loi établissant un nouveau mode de scrutin? Quand on parle de clarté référendaire, je ne sais pas si vous avez bien saisi la question, mais c'est quand même une question qui est complexe là, à mettre dans une journée qui est importante où est-ce que tu as déjà tous les enjeux de la campagne électorale éventuelle là, à gérer. En plus, il va falloir se prononcer là-dessus. J'ai hâte de voir qu'est-ce que l'exercice va donner. Je vais laisser Sonia Lebel, ministre de la Justice et responsable de ce projet de loi-là, tenter de nous expliquer un peu qu'est-ce que ça va manger en hiver, ce changement de mode de scrutin éventuel-là.
Les 80 sièges de circonscription seraient attribués au scrutin majoritaire, alors que les 45 sièges de région seraient attribués en fonction du nombre de votes obtenus à l'échelle de la région, tout en appliquant, dans le cas des listes régionales de partis, des règles de compensation relatives au nombre de sièges attribués à chaque parti.
Bon, en bon français, ça veut dire qu'on aurait deux bulletins de vote. Si on allait aux élections générales, mettons qu'en 2026, ça passe au référendum puis qu'on se rend à ce mode de scrutin-là, on aurait un bulletin de vote standard avec différentes circonscriptions, comme on a présentement. Là, vous voteriez dans la région, par exemple, pour Éric Kerr ou Geneviève Guilbeault ou Sol Zanetti. Là, peu importe les députés qui sont présents ou les candidats. Et vous auriez, à côté de ça, un bulletin de vote régional avec une liste de candidats qui représenterait votre région administrative. Okay, il y en aurait 45. Donc, ça ferait en sorte que ça donnerait plus de place un peu aux petits partis, puis eux seraient vraiment élus au pourcentage des votes dans les différentes régions. Alors, qu'est-ce que ça donnerait concrètement? Présentement, on a, on l'a bien exposé dans le Journal de Québec, un peu la projection de ce que ça aurait donné si les sièges actuels à l'Assemblée nationale avaient été distribués selon ce mode de scrutin-là. Ben, la CAQ n'aurait plus de gouvernement majoritaire. Ces sièges qui sont actuellement à 74 passeraient à 60, alors que pour une majorité, vu que 125 sièges, ça en prend 63, donc il serait un gouvernement minoritaire. En l'opposition, vous auriez les libéraux qui auraient gagné 5 sièges, passeraient de 31 à 36. Le PQ passerait de 10 à 15 et Québec solidaire passerait de 10 à 14. Donc, la principale différence qu'on aurait avec un mode de scrutin comme celui-là, c'est qu'il y aurait moins de gouvernements majoritaires. Donc, d'une part, vous auriez des gouvernements qui seraient plus obligés de collaborer, davantage obligés de collaborer avec les autres partis pour rester au pouvoir. D'autre part, vous auriez moins de stabilité. Des élections aux 2 ans, on verrait ça pas mal plus souvent, là, autrement dit, parce qu'il n'y a personne qui serait capable de s'installer en selle 4 ans sans être inquiété par l'opposition. Donc, ce sera aux Québécois de choisir ça. Les mauvaises langues diront que François Legault s'est débarrassé d'une patate chaude et d'une promesse qui tenait pas tant à remplir. Mais ça, c'est votre opinion et elle vaut autant que la mienne. Troisième point sur lequel je veux m'attarder ce matin, c'est une hausse des signalements du côté des DPJ, Direction de la protection de la jeunesse, région de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. À chaque année, il y a un bilan qui est effectué et on y accorde un peu moins d'importance les autres années parce que, bon, souvent ça baisse un petit peu, ça monte un petit peu. Il y a quelques statistiques intéressantes, mais il faut dire que dans les dernières années, les derniers mois, il y a des histoires qui ont particulièrement retenu notre attention. On pense au décès de la petite Rosalie Gagnon à Québec. Ça, c'est le petit bébé qui avait été retrouvé dans une poubelle. Et on pense aussi à la jeune fillette de 7 ans à Granby, la jeune martyre, dont présentement le père et la belle-mère font face à des accusations de maltraitance. C'est encore devant les tribunaux. Mais ce sont des histoires qui ont marqué l'imaginaire, qui ont fait jaser énormément et qui ont peut-être éveillé des consciences. Parce que ce qu'on constate, c'est que en 2 ans, les signalements à la DPJ dans la province ont augmenté de 16%. Dans la capitale nationale, une hausse de 7%, mais en Chaudière-Appalaches, 22%, donc au-dessus de la moyenne québécoise présentement. Et du côté de la DPJ, c'est justement à ces événements-là très, très forts, très, très durs dans l'actualité qui ont fait mal, je pense collectivement à tout le monde, que possiblement les gens ont plus tendance à signaler des événements à la DPJ. Je vous fais entendre les deux directeurs de la DPJ, des DPJ régionales. D'abord, vous allez entendre Caroline Brown de la DPJ de Chaudière-Appalaches et Patrick Corriveau de la capitale nationale.
C'est clair que ça a amené un éveil collectif auprès de l'ensemble de notre population. Et oui, on a eu des signalements de voisins, de grands-parents très inquiets qui hésitaient de signaler.
J'aurais envie de dire, on vous présente un bulletin de notes, mais qui n'est pas celui uniquement de la DPJ. C'est le bulletin de notre société.
Si ces événements dramatiques-là ont eu au moins comme corollaire positif de réveiller certaines personnes et de les pousser à signaler des événements, parce qu'il faut dire que c'est pas facile, là, si dans votre entourage vous soupçonnez quelque chose de triste pour un enfant, que ce soit dans votre famille, que ce soit des voisins, ça prend du courage de se lever puis de se dire, hey, moi je vais y aller puis je vais aller dénoncer à la DPJ ce que je pense qui se passe. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Mais si au moins les décès des deux jeunes filles dont je viens de vous parler a eu cet effet-là dans la population, ben il y aurait eu un avancement dans la société. Parce que vous vous souvenez, quand on parlait de la fillette de 7 ans à Granby, on craignait un peu que ça s'éteigne. Hein, parce que pendant plusieurs semaines, on s'est mis à fouiller un peu dans les annales de la DPJ. Comment ça se passe? Est-ce que les employés sont sur le terrain suffisamment? Est-ce que les cadres sont assez impliqués dans les affaires? Puis on craignait qu'avec les médias sociaux, ben on ait beaucoup, beaucoup de visibilité médiatique pour ce cas-là et que par la suite, ça s'estompe un peu, ben semble au moins qu'il y a une certaine évolution de la société, une certaine tendance à ce que les gens dénoncent davantage. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les cas de plus qui sont dénoncés, ce sont des cas d'abus physiques ou de risques d'abus physiques qui ont carrément doublé dans les secteurs de Montmagny, de la Beauce et de l'Est de Lévis, donc une zone particulièrement problématique, ou encore une zone où les gens sont particulièrement conscientiser pour dénoncer des événements à la DPJ. Alors voilà, c'est un petit peu le tour d'horizon de ce qu'il y avait dans l'actualité. C'était assez politique, là. Vous comprenez qu'en contexte de campagne électorale, lorsqu'il y a des événements d'intérêt, on s'y attarde. On va prendre une courte pause à 5h14. Au retour, Dan Pouit avec nous.
FM 93. Pour être à la fine pointe de l'information, c'est Bouchard en parle.
Donc, on va continuer à se battre. On va continuer à essayer de parler d'une ligne verte parce qu'il va y avoir du transport en commun, parce que ça va éliminer certaines voitures dans le trafic. Mais pendant ce temps-là, le premier ministre François Legault a demandé le renforcement de la loi 101 et le rapatriement de certains pouvoirs d'Ottawa vers Québec. Une autre patente péquiste. Il n'y a rien sur le troisième lien.
Bouchard en parle. Du lundi au vendredi, dès 5h30. FM 93. Ça me parle.
Paquet et fils, c'est plus que de l'huile à chauffage. C'est un service humain qui fait la renommée de l'entreprise depuis 115 ans. Demandez un prix sur paquetetfils.com, vous pourriez gagner 500 $ en remplissage. Gagnez votre huile à chauffage sur paquetetfils.com pour un temps limité.
Au nom du FM 93, je suis fier de souligner les 40 ans d'une entreprise de Québec. Bravo à Décapeur AC. En 1979, André Chamberlain fondait l'entreprise et déjà, son fils Jocelyn, 12 ans, travaillait à ses côtés. Dès 1991, Jocelyn Chamberlain a pris la relève de l'entreprise. Aujourd'hui, Décapeur AC est devenu le chef de file dans le relooking de meubles et d'armoires de cuisine en bois. Félicitations à Décapeur AC, une vraie entreprise familiale de Québec qui fête ses 40 ans.
Vos lunettes, à partir de 79 $. La deuxième paire à 25 % de rabais. C'est la révolution Scoop Vision.
Scoop Vision ébranle encore le marché. Sur la deuxième paire de lunettes, vous obtenez 25 %.
Vous avez donc deux paires de lunettes à partir de 138 $.
Le tout prêt en une heure. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apporter votre prescription.
Vos lunettes au prix d'Internet en succursale, c'est Scoop Vision. Sur Soumande, Kennedy-Lévis à Saint-Georges et maintenant sur Quatre-Bourgeois en face de la gare d'autobus.
Tandis que la lumière estivale s'estompe, il y a ceux qui créent leur propre moment d'éclat et pour eux, il y a Volvo. Robuste et dynamique, le Volvo XC90 est le parfait symbole du VUS sécuritaire. Grâce à ses technologies novatrices, vous transporterez votre famille en toute confiance pour aller voir les couleurs au chalet ou faire le trajet entre la maison et l'école. Louez ou financez un Volvo XC90 2019 à un taux de 2,9% et économisez 4000 $.
Visitez Volvo de Québec, volvodequebec.com.
Tant qu'à faire vos portes et fenêtres, contactez donc Portes et fenêtres Tremblay. Ben oui, parce que tant qu'à faire, ils sont entrepreneurs généraux et peuvent s'occuper de tous vos projets de rénovation ou agrandissement. C'est ce qu'on appelle un projet clé en main. Portes et fenêtres Tremblay, 2630 Boulevard Hamel.
Saviez-vous que la majorité des clients en deuxième et troisième chance au crédit n'ont pas la possibilité de choisir leur véhicule ou d'en connaître le prix réel? Chez Groupe Saillant au Crédit, vous avez accès à l'inventaire de tous les véhicules neufs et d'occasion des quatre concessions du Groupe Saillant. Lorry Mazda, Sainte-Foy Toyota, Option Subaru et Sainte-Foy Hyundai. Des véhicules d'occasion inspectés, réparés, reconditionnés, certifiés et surtout au même prix, peu importe votre dossier de crédit. Parce que rebâtir votre crédit, c'est ce qu'on fait dans la vie. Groupe Saillant au Crédit.com.
Poêle et foyer Portneuf vous offre la chaleur à l'année avec les meilleures marques de l'industrie comme Heat & Glow, Quadrafire et Harmon. Oui, toutes les collections de poêle et foyer, Heat & Glow, Quadrafire et Harmon. Poêle et foyer Portneuf, 241 Dupont à Pont-Rouge.
Une étude clinique chez Syneos Health, c'est aussi sécuritaire que mettre des petits trous sur votre vélo stationnaire et de porter un casque. Bref, vous êtes entre bonnes mains. Et en ce moment, on est à la recherche d'hommes et de femmes non-fumeurs âgés de 18 à 55 ans pour conduire une étude clinique. Les compensations peuvent aller jusqu'à 5000 $. Rendez-vous sur monétudesineossanté.com ou appelez-nous au 1-866-262-7427. Syneos Health. Pour un futur en santé.
C'est le Festival de crevettes à la Casa Grecque. Savourez une assiette de crevettes papillons servies avec sauce à l'ail et de succulents accompagnements pour seulement 15,95 $. Tous les jours, pour un temps limité, nos légendaires crevettes papillons pour 15,95 $. Casa
Grecque. Et n'oubliez pas d'apporter votre vin.
L'amorce avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
5h18 dans l'amorce. Bon matin si vous venez de vous lever. Je m'appelle Jean-Simon Buis. Merci de vous joindre à moi chaque matin dès 5h pour ce tour d'horizon de ce qui se passe dans l'actualité. On fait un petit tour à la météo. D'abord aujourd'hui, encore une journée grise, un peu à l'image de ce qu'on a eu presque toute la semaine. Des nuages, des averses qui commencent ce matin, 15 à 25 mm qui sont attendus avec de faibles vents, 20 km/h. Et donc, c'est pas une journée particulièrement chaude non plus à 16 degrés. Demain, vendredi, on est à 16 degrés encore une fois, mais enfin, on va revoir un peu le soleil. Alternance de soleil-nuages qui est prévue toute la journée. Samedi, une autre journée grise qui est prévue, maximum de 16, avec de la pluie toute la journée. Et enfin, dimanche, on aurait une journée ensoleillée du matin au soir avec 15 degrés. Et lundi, c'est 13 degrés là, à long terme, là, mais les températures sont pas mal dans les normales de saison. Présentement, les minimums sont à 6, maximum à 15. C'est ce qu'on atteint la nuit. Et quand on se lève le matin, ces temps-ci, là, comme présentement, on ressent quelque chose comme 10 degrés. Dan Pou, bon matin.
Oui, salut, Jean-Simon.
Ça fait la une du Journal de Québec, notamment. Mais Guy Lafleur va avoir une chirurgie cardiaque aujourd'hui.
Oui, quadruple pontage à Montréal, à l'hôpital du CHUM. Et Guy Lafleur, c'est un des plus grands joueurs vedettes non seulement du Canadien, mais de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Il a eu 68 ans la semaine dernière et il y a des malaises plus graves que d'autres. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui vont trouver que ils ont l'épaule un peu endolorie parce qu'ils sont allés s'entraîner hier ou ils ont forcé au golf. Mais tu sais, la santé, c'est important. Mais là, quand on voit que Guy Lafleur est dans cet état-là, il faut avoir une pensée pour lui. C'est un gars qui a marqué le hockey au Québec, tant par ses performances avec les Remparts au début des années 70 qu'avec le Canadien par la suite. Il a gagné 5 Coupes Stanley, il a marqué 6 saisons de suite, 50 buts ou plus en une saison. C'est un joueur qui a été très, très, très dominant dans le monde du hockey. Puis il est venu jouer avec les Nordiques. On a tendance à l'oublier, là, mais c'est ouais. L'ancien joueur du Canadien, c'est vrai, mais il est venu jouer avec les Nordiques à la fin de sa carrière. Il a joué avec les Rangers également. Moi, j'ai une pensée pour Guy Lafleur. T'sais, ce matin, je me retrouve avec un mal de dos important, mais c'est rien à côté de ce que c'est Guy Lafleur a. Puis même si j'avais été en parfaite santé ce matin, mon sujet aurait quand même été Guy Lafleur. C'est, il n'y a pas un résultat sportif hier. Il n'y a pas de nouvelle de signature de contrat qui, pour moi, est plus importante que l'état de santé de Guy Lafleur. J'espère que ça va bien aller pour lui. Quadruple pontage au cœur. Tu sais, Jean-Simon, tu as peut-être un chum secondaire ou tu as peut-être déjà entendu un athlète qui s'en allait aux Olympiques puis qui a dit à un moment donné, « Ouais, finalement, blessé au genou, j'attends une chirurgie. » Le genou, c'est le genou. Mais le cœur, c'est parce qu'il... Oui,
sans lui, là,
oui, on peut guérir ouais. Guy Lafleur probablement aujourd'hui. J'en doute pas. Tu sais, je suis vraiment pas spécialiste, puis je connais pas son état ouais. de santé. J'ai pas vu le bilan là, mais le cœur puis le genou, je fais une distinction.
C'est clair.
Tu sais, fait que Guy Lafleur aujourd'hui à Montréal quadruple le pontage. J'imagine qu'après ça, il va s'en suivre une longue réhabilitation. Puis on va peut-être avoir des nouvelles un peu plus tard dans les prochains jours. Mais faut avoir une pensée pour Guy Lafleur qui a été un athlète marquant de l'histoire du hockey au Québec, mais aussi à l'échelle de la Ligue nationale.
Ouais, Régent Tremblay, ce matin, titre dans sa chronique, « Un grand cœur fatigué ».
Oui, absolument.
Je trouve absolument. Que c'est les bons mots. Il a trouvé les mots justes ouais. pour le, ouais. le décret.
Ouais.
Merci, Dan.
À tantôt.
Un petit fait divers sur lequel je veux m'attarder avant de vous laisser et qu'on se joigne à vous avec toute l'équipe de Bouchard en parle. Il y a des voisins qu'on aimerait mieux avoir que d'autres. Hein. D'ailleurs, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un de très impliqué, là, quelqu'un qui est proche de vous, qui vous aide à certaines tâches, tout ça, ben vous êtes chanceux parce que c'est un peu une loterie des voisins. Vous savez jamais vraiment sur quoi vous allez tomber. Et il y a un individu, à un moment donné, qui s'est peut-être dit « Hey, wow, j'ai vraiment le voisin le plus incroyable au monde. Je suis tombé sur un voisin héroïque. » Je vous explique ce qui s'est passé un petit peu. À Lévis, en décembre 2017, il y a un monsieur qui se fait réveiller pendant la nuit par son voisin qui se fait dire « Écoute, ton char est en train de flamber, il y a un gros incendie à l'extérieur, lève-toi, on va se sauver de là. » Et là, les pompiers arrivent, puis le voisin avait dit « Hey, tu m'as sauvé la vie, merveilleux, merci beaucoup. » Le voisin en question, le héros, s'appelait Michael Pouliot. Okay? Jusque-là, ben c'est merveilleux, c'est une histoire de voisin qui est... Il est présent, qui a eu le bon réflexe de sauver son voisin, un bon samaritain. Tout est beau là-dedans. Sauf que, quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, chez le même voisin, il y a encore un incendie et le monsieur en question, Michael Pouliot, appelle au 911, dénonce 2 individus qui auraient été impliqués pour rapporter l'incendie. L'incendie s'éteint de lui-même. Sauf que là, cette fois-ci, coup de théâtre, les pompiers qui font l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en lien avec l'incendie découvrent dans la neige des empreintes de pas qui sont capables d'associer à Michael Pouliot. Et ce qu'on apprend, c'est que Michael Pouliot, c'est pas un héros. C'est un individu en manque d'attention qui a allumé volontairement des incendies chez son voisin pour après ça passer pour un héros. Et il faut le faire pareil. Le gars est allé faire flamber la voiture de son voisin pour faire semblant de le sauver par la suite. Vous comprenez qu'il y a des accusations criminelles qui ont été portées contre lui. En plus de ça, c'est un individu qui a eu d'autres accusations, qui fait face à des accusations de conduite dangereuse, voie de fer armée avec son véhicule alors qu'il était ivre. Alors l'individu s'est retrouvé devant les tribunaux et finalement, on a connu sa sentence hier. 2 ans moins 1 jour de prison, donc dans une prison provinciale, mais le juge a été très sévère à son endroit en disant il a fait courir des risques énormes à la famille et à son voisin. Il a montré un flagrant mépris pour la sécurité d'autrui. Il faut le faire quand même, d'imaginer que dans la société, il y a des gens qui sont à ce point tordus, qui vont mettre en scène des situations de danger autour d'eux pour après ça réussir à faire parler d'eux puis se faire passer pour les héros. Je vous souhaite que vos voisins... et de meilleures intentions que ça aux alentours dans votre rue. Il est 5h24. Merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. Dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle qui débute. Et demain matin, vendredi 5h, soyez à l'écoute, je vais être là. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.